Après avoir longtemps débattu, la discussion s'est un peu calmée parce que le duc de Bourgogne en personne s'est levé. Lui aussi racontait des histoires autour de cette table. Et il leur a dit, écoutez, mes seigneurs, écoutez comment parfois les hommes savent se torturer le cœur et l'esprit au risque de perdre le bonheur qu'ils ont pourtant dans le creux de la main. Vous connaissez tous l'histoire de ce petit seigneur campagnard, un hobereau, un peu rustaud, un peu lourdeau. Il s'était marié en 1458. Il était riche. Il possédait bonne terre, grands troupeaux, belles maisons. Il disposait de serviteurs nombreux. Mais surtout, il avait une excellente épouse, gouvernant sa maison avec beaucoup de clairvoyance et de doigté. Elle était bien plaisante à regarder, plaisante par devant et par derrière tout autant. Et elle était fidèle, absolument fidèle. À la place du mari, combien d'hommes auraient béni leur sort, hein ? Eh bien, lui, non. Il ne bénissait rien. Et il surveillait tout. Il contrôlait, il vérifiait. Il surveillait l'apothicaire, l'aubergiste, le forgeron. Il surveillait le prévôt, le curé, le ménestrel qui passait par là. Mais surtout le meunier qui sifflait à tue-tête en travaillant du matin jusqu'au soir. Il suivait les servantes porteuses de secrets. Et puis sa femme, bien sûr, il la suivait, il la poursuivait. Ah, elle était bien à plaindre de vivre aux côtés d'un époux grincheux et soupçonneux comme celui-là. Quand elle sortait dans cette robe blanche avec du jaune par là, il ne savait pas pourquoi, mais ça le plongeait pour la journée dans l'humeur la plus noire. Comme tous ceux qui sont rongés par cette malédiction, il s'épuisait la vie dans des plaisirs bien misérables. Au bout d'une année de mariage à peine, il était tout plat, tout gris, comme une vieille oreille d'âne. Un matin, juste à la pointe de l'aube, un merle bienheureux se met à chanter. Le bonhomme dormait toujours d'un œil. Il se retrouve debout, sur ses deux pieds, courant partout dans le jardin, persuadé que ce n'était pas le merle qui chantait, mais le meunier, venu là pour siffler une aubade à sa femme. Il a fini par se rendre compte que le merle moqueur continuait sa chanson tout en haut du grand chêne. Et là, il s'est vu, lui, tout en bas, pieds nus, dans la rosée du petit matin, en chemise et bonnet de nuit. Une apparition ! Il a pris peur. Je veux guérir. Je veux la certitude. Je veux guérir, coûte que coûte. Il avait dit ça à voix haute. Le maire l'a entendu. Tu veux guérir ? Et où t'adresser ? Aucun conseil d'amis, aucune médecine ne viennent jamais à bout du mal de jalousie. Tu es cuit, mon ami, tu es cuit, 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 cuit. Alors je vais implorer Dieu, je vais faire des pèlerinages. Pèlerinage, pèlerinage. Tu vas laisser ta maison sans espionnage. Mais à ton retour, tu seras cuit, mon ami, tu seras cuit, 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 cuit. Bon, mais alors je vais charger mes serviteurs de faire en mon nom dévotions et offrandes. Chaque matin, j'honorerai le saint du jour. Ça vaudra bien 10 pèlerinages. Le merle en haut du chêne s'est mis à rire. Graisse la patte au saint du jour, l'évêque te dira bonjour, mais le bon Dieu restera sourd. Mais le merle pouvait toujours rire et chanter. Le bonhomme ne l'entendait plus. Il venait de réaliser qu'on était le 29 septembre. C'était la Saint-Michel, un très grand saint. Il a couru vers la maison pour éveiller ses serviteurs. Vous allez visiter toutes les chapelles, toutes les églises. Vous pousserez jusqu'à la cathédrale de la ville. Je veux que tous les Saint-Michel du pays reçoivent bonne offrande, sonnante et trébuchante, et puis dévotion bien chevrotante. Et pendant que vous y serez, vous ferez brûler en plus un gros cierge de bonne cire devant le diable en forme de dragon que Saint-Michel écrase de son Saint-Pied. Et à ce diable aussi, vous direz une prière à mon intention. Ça fera bonne mesure. Allez. Les serviteurs sont partis, ils ont exécuté les ordres scrupuleusement, ils sont revenus, ils ont fait un rapport détaillé. Bon, a dit le bonhomme. Bon, je vais bien voir qui de Dieu ou du diable sera capable de me guérir. Et il a passé le reste de la journée, comme à son habitude, d'une abominable façon. Le soir est venu, il s'est couché sans la toucher, près de son excellente épouse. Et il a tourné longtemps dans sa tête, farci les idées noires qui s'y trouvaient. Mais la nature a eu le dessus, il s'est endormi. Comme il atteignit le beau milieu de son meilleur sommeil, voilà que celui à qui il avait offert un gros cierge de bonne cire lui apparaît en songe. Et quel songe ! Le diable s'approchait. Il tenait par la bride le premier cheval d'un lourd attelage. Il y avait trois chevaux rouges comme braise, trois chevaux noirs comme charbon luisant. La charrette était verte, lourdement chargée. Les quatre essieux grinçaient. Le diable était vêtu de noir et de rouge, et il avait entre les cornes un bonnet de charretier. Il s'est arrêté juste à la hauteur du bonhomme ébahi. « Je suis venu te remercier de ton offrande. Voilà, belle lurette, que... pareille aubaine ne m'était pas arrivée. Mais mon ami, tu n'as pas perdu ta peine. Ce que tu m'as demandé, tu l'auras. » Et le bonhomme a bien senti que le diable, tout en parlant, lui glissait un anneau à l'un des doigts de la main gauche. Aussi longtemps que cet anneau restera en place, tu seras guéri de ta jalousie. Cet anneau te dira à chaque instant: où est ta femme? D'où elle vient? Où elle va? Et surtout, ce qu'elle fait? Tu ne seras jamais cocu, mon ami, tu ne seras jamais cocu. À moins d'y consentir toi-même. Tu peux dormir tranquille, sans craindre l'infortune. Tu peux aller en paix, en toute certitude. Et le diable a reculé d'un pas. Il a touché son bonnet comme pour saluer et il a rejoint l'attelage. À nouveau, le jaloux a vu passer devant ses yeux les trois chevaux rouges, les trois chevaux noirs, la charrette verte et les essieux grincés. Et rouge, vert et noir, tout s'est fondu dans le brouillard du rêve. Mais le brouillard du rêve, c'était comme si un tout petit agneau avait posé sa laine douce sur le cœur du jaloux. Il flottait sur un petit nuage bleu. Il était bien. Il sentait à son doigt la chaleur de l'anneau. Ça le rendait câlin, un peu taquin, un peu coquin. Un merle gentiment faisait des vocalises. Il était bien dans les fumées douces du rêve, dans lequel il entendait passer des soupirs. Mais les fumées douces du rêve se sont tout à coup dissipées, quand le jaloux a cru sentir qu'on lui dérobait son anneau. Il s'est réveillé en sursaut, et il a découvert que l'un de ses doigts était profondément enfoncé dans le derrière de sa femme, ce qui les a plongés l'un et l'autre dans une très grande stupéfaction. On ne sait pas ce qu'il advint par la suite du jaloux et de son excellente épouse. On ne sait pas quelle partie ils ont pu tirer du diabolique anneau. L'histoire ne le dit pas. Et c'est diablement regrettable. Merci.